15h, 16h,
sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous. Votre émission Santé et Bien-être, c'est tous les jours de 15h à 16h. Pendant une heure avec le docteur Jimmy Mohamed, notre médecin européen, nous tentons de vous éclairer sur les sujets de santé qui vous préoccupent et justement, il est à mes côtés dans ce studio. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous.
Au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré à la phytothérapie. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont tentés de soigner les petits maux du quotidien par les plantes, perçues comme plus naturelles sous la forme de tisanes, d'huiles essentielles ou de gélules. Nous ferons le point sur leurs bénéfices, mais aussi attention, certaines plantes ne sont pas dénuées d'effets indésirables. Pour en parler dans le détail, nous recevrons le professeur Pierre Champy. Il est responsable de l'enseignement de la phytothérapie à la faculté de pharmacie de Châtenay-Malabry. Ensuite, dans notre chronique Les maux du quotidien, nous nous intéresserons au dosage des transaminases, un marqueur d'une souffrance au niveau du foie. Alors qui doit faire ce dosage, à partir de quel âge et dans quel but? Nous ferons le point. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, elle nous dira si c'est vrai, si la libido est réellement plus importante en été.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc on écoute la première, c'est la question de Cyril.
Bonjour l'équipe, bonjour docteur, bonjour Mélanie, Cyril 38 ans d'ici des Moulineaux. Je vous appelais car vous aviez fait une émission il y a quelques temps où vous aviez parlé des hormones et une en particulier qui augmente ou augmenterait l'appétit. Impossible de trouver son nom, je ne sais plus du tout ce que c'était et pourtant c'était intéressant pour en parler. Et alors pourriez-vous me rappeler le nom de cette hormone et éventuellement comment l'éviter? Je ne pense pas être le seul dans ce cas à être intéressé. Merci beaucoup, bonne journée.
Eh bien, on est là aussi pour les petites pertes de mémoire. Vous avez entendu l'émission, vous vous rappelez pas, il n'y a pas de problème. On avait fait effectivement une émission sur les hormones il y a quelques mois, Jimmy, vous vous en rappelez, avec le docteur donc Emmanuel Lecornet-Socol, une hormone dont vous aviez bien noté le nom, vous, je m'en rappelle, puisqu'elle coupe l'appétit, ça vous intéressait. Et donc, on va écouter les précisions justement de l'endocrinologue, donc le docteur Emmanuel Lecornet-Socol.
On a la gréline, qui est fabriquée essentiellement au niveau de l'estomac. Et donc, au fur et à mesure qu'on s'éloigne du repas, le taux de gréline va monter. Quand il est très fort, on va avoir très faim. Et quand on va manger, l'estomac va se remplir. Au fur et à mesure, petit à petit, le taux de gréline va diminuer et l'appétit va diminuer. Il y a plusieurs choses qu'on connaît. Entre guillemets, truc de grand-mère qui est très connu, c'est de commencer son repas par une boisson, par un grand verre d'eau ou par de la soupe. C'est quelque chose qui va remplir votre estomac, qui va le dilater. Et donc, du coup, vous allez mécaniquement diminuer votre fabrication de gréline et donc permettre ensuite de manger moins. C'est pour ça qu'on dit que quand on boit un grand verre d'eau, ça permet de diminuer notre appétit. Et en fait, il y a même des études qui ont montré que rien qu'en commençant chaque repas avec un grand verre d'eau, eh bien, on pourrait perdre 2 kilos.
Eh bien Cyril, je crois que vous avez toutes les infos, c'est parfait. C'était donc les précisions du docteur Lecornet-Socol au micro de Benjamin Lévesque. Passons à présent à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est une question pour vous, Jimmy, c'est celle de Karine qui nous a appelé de Mâcon.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur. On fait toujours faire un roux à un bébé de 4 mois, mais en fait j'aimerais savoir à quoi ça sert et surtout jusqu'à quel âge est-ce qu'il faut le faire? Merci beaucoup pour vos réponses.
Bon, Jimmy, les roux, c'est votre spécialité, donc on va en parler. Tous ceux qui ont eu des enfants, je plaisante évidemment, connaissent ça. C'est vrai que lorsqu'on est jeune parent, on nous dit, bon, bah, il faut faire le roux au bébé, on le fait, mais on ne sait pas toujours finalement pourquoi on doit le faire faire ce roux.
Eh bien, quand l'enfant tète, qu'il soit au sein ou au biberon, il avale du lait, mais il avale aussi de l'air, et cet air va s'accumuler dans l'estomac. Et s'il n'est pas évacué à travers le roux, il peut donner des douleurs abdominales. Et vous avez un enfant qui va se tortiller, être inconfortable, va pleurer. Ce ne sera pas des coliques, c'est simplement l'air, tout simplement, qu'il digère pas et qu'il faut évacuer.
Donc c'est comme un roux coincé en quelque sorte. Alors c'est surtout, moi j'avais entendu dire, mais vous allez me dire si je me trompe, un truc qu'il faut faire absolument quand bébé est au biberon plutôt qu'au sein. Moi quand j'ai allaité mes enfants, on m'avait dit peut-être là il y a moins besoin de faire le roux, c'est vrai?
Exactement,
ou pas?
Exactement, au biberon ils avalent beaucoup plus d'air, au sein ils régulent un petit peu mieux puisque finalement ils prennent de moins de grandes quantités, ils font un peu plus attention et puis ils sont souvent repus plus rapidement alors qu'au au biberon, eh bien, à ce moment-là on peut aussi avoir de mauvaises techniques. Par exemple si vous donnez le biberon et que la tétine n'est pas remplie totalement de lait, surtout vers la fin,
il y a du lait,
eh bien, il va aspirer de l'air et à ce moment-là, le bébé va être inconfortable. Donc l'euro est vraiment nécessaire lorsqu'il est au biberon et un peu moins lorsqu'il est au sein, même si certains bébés, parfois, s'ils sont un peu gloutons, bah, ils ont besoin d'évacuer aussi.
Très bien. Alors, tout dépend aussi, là, je parle un peu d'expérience aussi, avec deux bébés, il y a des gros roteurs, des petits roteurs, il y en a qui font des énormes rototos, d'ailleurs, on adore, on trouve ça mignon hein, quand c'est les petits. Un bébé qui roterait pas, parce qu'il y en a hein, qui vont pas roter, il faut le secouer, c'est très important.
Enfin, alors, c'est vrai, vous avez raison.
Secouer, il faut jamais secouer un enfant, évidemment. Mais...
Évidemment, fais attention. Alors, c'est vrai que certains vont roter systématiquement, et puis d'autres, pas tout le temps, et puis parfois même un bébé va roter un repas et puis pas un autre. Eh bien, au bout de 5 minutes, s'il n'y a pas eu de rot, on le laisse tranquille. C'est pas la peine. Parfois, certains vont roter.
Je sais en passer des fois 20 minutes, 30 minutes en disant, mais il n'a toujours pas fait de rot.
Alors, il va finir par évacuer de lui-même. Ouais. Dans ces cas-là, on n'hésite pas à le laisser en position verticale. On ne le recouche pas tout de suite. On ne serre pas trop la couche pour éviter ces régurgitations, parce qu'à ce moment-là, l'enfant peut être un peu ballonné. Et puis parfois, ils vont simplement avoir le hoquet et ils vont digérer tranquillement. Et donc, on les laisse tranquilles. Et s'ils se tortillent, ben, il a le droit d'avoir des coliques et il faudra peut-être le masser un peu le ventre.
C'est quoi la bonne technique pour faire le rot? On les met sur l'épaule en général et
exactement.
On tapote dessus.
On met un petit linge sur notre épaule parce que sinon, on va se retrouver avec un petit peu de régurgitation. Ça, c'est la meilleure technique. On peut aussi les mettre dans le creux de la main, sur l'avant-bras. Parfois, on les met en position assis, tout simplement, face à vous, dos à vous. Et puis, ils évacuent à chaque bébé sa technique et à chaque parent, finalement, son petit moyen. Mais en règle générale, on acquiert tous un peu d'expérience au fur et à mesure.
Vite. Et à quel âge on arrête le rot d'ailleurs?
En général, quand ils ne mangent plus, ils sont diversifiés, ils vont manger plus de solides et donc moins besoin de roter. Donc,
vers six mois,
c'est moins nécessaire.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, comme Karine qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons accueillir notre invité, c'est le professeur Pierre Champy, avec qui nous allons parler aujourd'hui des bienfaits et des risques de la phytothérapie. Se soigner par les plantes, c'est à la mode, mais quelles sont réellement celles qui ont fait la preuve de leur efficacité? Quelles sont celles à manier, au contraire, avec précaution? On va vous détailler tout ça. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble, comme chaque jour, jusqu'à 16h. Alors, c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, professeur Pierre Champy. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes responsable de l'enseignement de la phytothérapie à la faculté de pharmacie de Châtenay-Malabry. Et donc, aujourd'hui, avec vous, on va faire un focus sur la phytothérapie. Et on va commencer peut-être par un petit peu d'histoire. À quand remonte finalement l'intérêt de l'homme, on va dire, à se soigner par les plantes? À très, très, très longtemps, je crois.
A priori, c'est un intérêt qui remonte à avant l'émergence de l'homme et le fait d'utiliser des plantes pour modifier son état de santé, c'est quelque chose qu'on retrouve chez des primates, chez des grands singes.
Ah oui, carrément. Et donc les hommes préhistoriques aussi, les premiers hommes, utilisaient les plantes. J'imagine qu'ils n'avaient que ça de toute façon.
Il semblerait très logique qu'ils les aient utilisées, en l'occurrence.
On a des preuves de ça, oui, on sait. Enfin...
Alors on a des traces archéologiques, effectivement, de la présence, notamment sur des sites d'enterrement, de plantes pouvant être utilisées à des fins rituelles, mais aussi de plantes qui sont purement des plantes médicinales et qui sont toujours employées à l'heure actuelle. Et les très anciens textes médicinaux, les plus anciens textes médicinaux connus, datent d'il y a à peu près 4000, 5000 ans.
Et donc, avant notre ère.
Avant notre ère. Et donc, notamment des tablettes d'argile en alphabet cunéiforme, retrouvant en Mésopotamie. Et les fondements de la médecine chinoise sont également extrêmement anciens, plus de 4000 ans.
C'est vraiment fou ça, Jimmy.
Oui, c'est vraiment fou, c'est même ouf, c'est comme
ouf,
vous dites, Mélanie.
Donc, c'est senti tout seul, excusez-moi.
On l'utilise depuis très longtemps, mais est-ce qu'on l'utilise partout, sur tous les continents, ou est-ce que c'est réservé à certaines populations, à certains pays?
Alors, ce n'est pas réservé à certaines populations ou certains pays. On va dire que la manière d'utiliser la phytothérapie est très différente en fonction du contexte sanitaire et du contexte économique et socio-économique. Donc, du côté occidental, on est vraiment sur de la bobologie ou de la prise en charge de troubles du quotidien à la frontière du bien-être, parce qu'on a souvent des solutions médicamenteuses qui sont plus efficaces ou de sécurité mieux démontrées. Même si on peut utiliser parfois de la phytothérapie en accompagnement de traitements lourds sur des pathologies qui sont lourdes. Par contre, dans des pays en voie de développement où les réseaux de distribution de médicaments ne sont pas bons, il est clair que la médecine traditionnelle et l'emploi des plantes est extrêmement important. Et pour l'Organisation mondiale de la santé, près de 75% des habitants de la planète se soignent avec des plantes.
C'est incroyable, hein, c'est vraiment énorme. Il y a des pays où on n'a que ça encore aujourd'hui. Enfin, ils se soignent uniquement avec les plantes, peut-être des tribus, je ne sais pas.
Alors, soit on n'a que ça, soit éventuellement, on a confiance plus particulièrement en la médecine traditionnelle et la phytothérapie qui va éventuellement répondre à des besoins de santé qui ne sont pas existants en biomédecine occidentale. On pourra également retrouver de la combinaison avec des traitements classiques.
C'est vrai que même si ces dernières années, donc, elle revient en force avec de nombreux Français qui sont désireux donc, de se soigner de façon plus naturelle, on en oublie quand même que le nombre de nos médicaments conventionnels, là pour le coup, très connus, hein, sont en fait à la base issus de plantes. Est-ce que vous donnez quelques exemples?
Des exemples, il y en a beaucoup. Alors dans les grands exemples récents, on peut penser à l'armoise chinoise ou armoise annuelle, qui donne un composé qui est très actif contre le parasite qui cause le paludisme, donc l'artémisinine, dont on utilise des dérivés dans des médicaments classiques. Mmh. Et ça, c'est des molécules qui sont absolument majeures. Après, les exemples sont, on va dire, innombrables. On peut penser, par exemple...
Et certaines chimiothérapies du cancer qui viennent de plantes, hein, je crois, c'est
oui,
ça
oui, absolument, ouais. De la pervenche de Madagascar, par exemple. On est assez souvent sur des dérivés des molécules naturelles. Et donc là, on s'éloigne de la phytothérapie dans la mesure où on va isoler un principe actif et éventuellement, on va le transformer chimiquement pour améliorer son efficacité ou sa sécurité.
Jimmy ?
Quand on parle phytothérapie, pardon, on pense tout de suite aux plantes et on a l'impression que ça ne se limite qu'à ça, mais je crois que c'est un peu plus vaste. Ça comprend quoi, la phytothérapie, exactement ?
Alors, la phytothérapie, elle va comprendre le recours à de la plante à l'état brut, donc éventuellement des jus frais de plantes. Ça ne se fait pas beaucoup chez nous, ça se fait beaucoup plus en Europe centrale, par exemple. Ça va être de la plante utilisée en tisane, éventuellement de la plante mise en poudre dans des gélules. Et ça, c'est quelque chose de relativement nouveau, finalement, comme pratique. On s'éloigne un peu de la tradition qu'on avait en Occident. Et puis, des préparations, des extraits, alors par exemple, les huiles essentielles, qui sont en emploi finalement relativement récent dans un cadre thérapeutique. Ça a un siècle et demi à peu près, l'utilisation importante d'huile essentielle. Et donc là, on s'éloigne quand même de la plante à l'état brut, dans la mesure où on va concentrer certains principes actifs. Et donc, le rapport bénéfice-risque ne sera pas forcément le même que celui de la phytothérapie sous forme de tisane.
Et quand on dit plante, c'est des herbes, des fruits, des racines. Enfin, on est d'accord, c'est assez large. Hein.
Des écorces, des rhizomes.
Des fleurs.
Hein. Des fleurs, éventuellement, oui.
C'est pas uniquement des herbes, du thym, du romarin, c'est bien plus que ça. Hein. On a une idée du nombre de plantes qui sont à notre disposition pour se soigner.
Alors, si on estime qu'il y a à peu près 390 000 plantes à fleurs, on considère qu'il y a entre 25 000 et 70 000 plantes qui sont utilisées pour se soigner sur la planète.
Incroyable.
En médecine chinoise, il y a à peu près 700 plantes qui doivent être répertoriées. Et en France, on est à peu près 550 plantes médicinales, dont certaines qui sont écartées du champ thérapeutique.
Jimmy ?
Mais du coup, donc, c'est une médecine très ancienne. Est-ce qu'on continue de découvrir de nouvelles plantes, de nouvelles molécules, enfin de nouvelles actions qu'une plante pourrait avoir dans la recherche ? Est-ce que ça évolue ? Est-ce que c'est figé finalement ?
Alors, on se base beaucoup sur la tradition, ça, on pourra y revenir. Et donc, on va dire qu'un certain nombre de pratiques sont assez figées. On ne fait pas de découvertes très importantes sur des plantes de phytothérapie usuelles, hein, dans la mesure où les laboratoires pharmaceutiques ou les laboratoires de compléments alimentaires, puisqu'on est souvent sous le statut complément alimentaire, n'ont pas besoin de développer de recherches particulières. Donc, je ne dirais pas qu'il y a des découvertes majeures sur des nouvelles molécules dans des plantes déjà connues. Il y a quand même une recherche en phytothérapie qui est assez active à l'échelle mondiale et qui touche notamment les pays qui ont un fort recours à cette phytothérapie.
En France, on fait de la recherche en phytothérapie ?
Il y a un peu de recherche en phytothérapie, il y en a beaucoup trop peu malheureusement. Donc il y a un petit peu de recherche fondamentale, ce qu'on fait notamment dans des laboratoires de chimie, dans des facultés de pharmacie, où on va notamment regarder des contenus en principe actif pour établir des normes de qualité par exemple. Ce qui manque beaucoup, c'est l'évaluation clinique et notamment l'évaluation dans des soins de support ou du bien-être en milieu hospitalier, où là, il y a des freins à la recherche.
En France, on sent cet engouement pour la phytothérapie depuis quelques années. Vous diriez que c'est depuis quand que c'est... Alors, je ne sais pas si on dit à la mode ou plus utilisé. Ou est-ce qu'on vous a... Je ne sais pas, dans les chiffres de vente, on doit avoir une idée déjà.
Alors, c'est revenu à la mode dans les années 70-80, donc au siècle dernier. Et là, depuis 20 ans, ça explose avec des croissances extrêmement importantes des chiffres de vente. Il est difficile d'avoir un aperçu de l'ampleur réelle de la phytothérapie dans la mesure où on va être sur des produits de statut varié. Et puis on est souvent à la frontière avec la plante aromatique qui s'utilise de manière alimentaire. Mais par exemple, les compléments alimentaires, c'est presque 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France, avec plus de 60% de ces compléments alimentaires qui contiennent des plantes, qui sont principalement des plantes médicinales.
Professeur Champillon, on ne fait que commencer cet entretien. Vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons continuer cet entretien sur la phytothérapie. Quelles sont les plantes qui ont réellement prouvé leur efficacité pour soigner certaines pathologies, certains troubles du quotidien? Peuvent-elles remplacer les médicaments conventionnels? On vous explique tout ça dans quelques toutes petites minutes. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h-16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed, bien sûr, et notre invité, c'est vous, professeur Champy. Vous êtes responsable de l'enseignement de la phytothérapie à la faculté de pharmacie de Châtenay-Malabry. Professeur, on va passer à présent à la pratique. Alors, l'efficacité de la médecine par les plantes, elle est reconnue dans certaines indications, on va en parler. Mais justement, pour prouver cette efficacité, on parle beaucoup en ce moment des études cliniques, etc. Est-ce que en phytothérapie, on a fait des études scientifiques vraiment qui ont prouvé, on va parler des indications après, mais où c'est difficile à monter, il y en a quand même qui existent et qui ont vraiment prouvé de manière formelle, telle plante, ça marche sur ça.
Alors, on a malheureusement un manque de preuves. Les études, elles sont anciennes. Vous aviez souligné tout à l'heure que la base de notre pharmacopée classique, c'était les plantes, très souvent. Donc, on a de l'étude scientifique depuis le 19e siècle, en fait. Le degré de preuve est malheureusement relativement peu important, dans la mesure où on a quand même beaucoup de données qui semblent corroborer la tradition, mais qui sont obtenues dans des modèles très simples, donc des modèles cellulaires, ce qu'on appelle du in vitro. Et là, on est quand même très éloigné des conditions réelles.
Dans des tubes à essai, c'est pas celui-là, mais ça donne pas toujours la même chose.
Absolument, notamment parce que les molécules naturelles se transforment dans le tract digestif et au niveau du foie. On a des données chez l'animal, alors qui corroborent aussi beaucoup la tradition. Mais pour les données cliniques, on en a moins. Et quand on en a, elles sont peu puissantes, malheureusement.
Jimmy ?
Est-ce que certaines plantes ont le statut de médicament ou ça reste dans la base des compléments alimentaires, enfin les choses un peu complémentaires ?
Il y a à peu près 200 plantes qui peuvent revendiquer un statut médicamenteux, donc rentrer dans la composition de médicaments qui sont dits des médicaments à base de plantes qui ont un statut spécifique en Europe.
Par exemple, on a quoi dedans ?
On
ces 200
peut
de choses qu'on connaîtrait peut-être.
Beaucoup de plantes très connues, hein, la valériane, la passiflore, le houblon, le millepertuis, le
fenouil. Un statut de médicament pour cela, ouais.
Oui.
Complètement.
On peut avoir un statut médicament, mais ces médicaments, ils sont très peu nombreux. Parce qu'un médicament, c'est plus cher à produire qu'un complément alimentaire. Et maintenant qu'on a un statut de complément alimentaire défini en Europe, la phytothérapie passe beaucoup du côté du statut de l'aliment, même si théoriquement, un complément alimentaire n'est pas là pour soigner.
On oppose souvent la médecine chimique, la médecine conventionnelle et la phytothérapie, mais peut-être qu'on ne devrait pas. Est-ce que si l'une ne remplace pas l'autre, on ne va pas soigner le cancer avec des plantes? Elles sont souvent quand même complémentaires, ces deux médecines.
Elles peuvent être complémentaires, il faut faire attention, il faut faire appel à des gens formés. Je pense qu'on en reparlera probablement tout à l'heure. En l'occurrence, on a bien des molécules qui ont une activité biologique dans les végétaux et qui vont agir comme pourraient agir des médicaments classiques. Donc cette opposition du médicament chimique versus du naturel est, on va dire, plus idéologique qu'autre chose. Après, en termes symboliques, ce n'est pas forcément la même chose que de se tourner vers une plante, notamment qu'on pourrait aller cueillir soi-même, par rapport à un médicament manufacturé.
Surtout que les Français sont très ambivalents vis-à-vis des médicaments. Autant ils ont une grande défiance, mais d'un autre côté, s'ils sortent d'une consultation chez le médecin et qu'ils n'ont pas une ordonnance longue comme le bras,
effectivement, mais ils
sont
presque
pas contents.
Rien, docteur, vous
oui,
le dites
on a
souvent.
Une rhinopharyngite, ouais. Il ne m'a rien prescrit. Est-ce que ça ne pourrait pas venir en complément pour atténuer un peu cette prescription médicamenteuse? Est-ce que vous constatez que nous, on consomme trop de médicaments d'ailleurs?
Alors la consommation médicamenteuse est extrêmement importante. Hein. On peut penser à la consommation de benzodiazépines à visée hypnotique
oui,
ou
anxiolytique. Oui, tous les somnifères et toutes ces choses-là, bien sûr.
On peut peut-être se tourner vers des solutions plus simples et potentiellement beaucoup moins impactantes et beaucoup moins dangereuses, avec notamment des plantes ou des huiles essentielles. Ça, c'est un bon exemple de cas où on pourrait faire du relais.
Alors justement, vous parliez des benzodiazépines, des somnifères et donc des plantes qui pourraient venir au secours, entre guillemets, de ces problèmes-là. Parce que là, dans des troubles du sommeil, par exemple, la phytothérapie a fait ses preuves, par exemple, avec quel type de produits?
Alors pour la valériane, par exemple, pour certains types d'extraits qui sont définis à la pharmacopée, donc un texte de référence défini depuis extrêmement longtemps, on a des données cliniques d'efficacité. Après, pour les médicaments à base de plantes, très souvent, on se fonde sur la tradition et pas nécessairement sur la preuve scientifique. Pour développer un médicament à base de plantes, on n'a pas besoin de faire des essais cliniques comme c'est fait du côté du médicament classique. Ça joue en défaveur de la reconnaissance du domaine de la phytothérapie par des médecins en particulier.
Mais vous, dans la pratique, la valériane, ça fonctionne? Il faut la prendre comment pour, si on a des troubles de sommeil, sous quelle forme c'est le mieux?
Alors la valériane, elle va être plus efficace sous forme d'extrait dit hydroalcoolique, réalisé avec de l'eau et de l'alcool, et ensuite tiré à sec et mis en forme dans un médicament. On peut éventuellement utiliser la tisane, même si l'odeur de la valériane est un petit peu bizarre, mais c'est moins efficace, et ça, du coup, c'est démontré, cette différence d'efficacité.
Et ça se prend le soir avant de dormir, par exemple, c'est ça?
Alors, pour de la valériane, par exemple, ça pourrait être pris en journée s'il y a une anxiété, et ça pourrait être pris le soir en double dose pour favoriser l'endormissement.
Jimmy?
On ne va jamais traiter, évidemment, une pneumopathie avec de la phytothérapie, mais néanmoins, on voit beaucoup de bronchites, et les bronchites ne nécessitent pas d'antibiotiques. Et est-ce qu'on pourrait proposer quelque chose, finalement, en complément, lorsqu'on est un peu encombré, de la phytothérapie pour le confort?
Absolument, il y a des plantes qui marchent bien en cas de bronchite et pour lesquelles le degré de preuve est important. On peut penser par exemple au lierre grimpant, qui est une plante extrêmement commune, dont des extraits donnent d'excellents résultats dans des bronchites ou des bronchites asthmatiformes. Là, il y a beaucoup de démonstrations cliniques chez l'enfant.
Ça se donne sous quelle forme, ça, le lierre?
Alors là, ça va plutôt être des sirops manufacturés, en l'occurrence, qui sont beaucoup plus sûrs en termes de dosage, beaucoup plus faciles à utiliser.
Ça marche bien, oui.
Ça marche bien. On pourrait penser au polygala. Donc là, on est dans une visée qui est vraiment une visée expectorante et mucolytique. On
peut se désencombrer.
Pour se désencombrer, pour cracher les mucosités. On peut associer également des plantes avec un caractère antiseptique. Alors, on peut penser notamment à l'eucalyptus ou à l'huile essentielle d'eucalyptus qui peut présenter certains risques, notamment chez l'enfant.
Mais chez moi, par exemple, adulte en santé normale, enfin, je peux prendre ça, je n'aurai pas de problème, ça va me faire du bien.
Pas de problème pour en utiliser, sauf certains cas particuliers. Par contre, degré de preuve, peu important, mais une expérience collective extrêmement forte dans ce cadre-là.
Jimmy ?
Si on parle de pathologie peut-être un peu plus grave ou sérieuse, est-ce que la phytothérapie peut aider dans les effets secondaires, notamment des chimiothérapies ? Est-ce qu'il y a des molécules qu'on fait, alors preuve d'une efficacité, on va dire, un peu empirique par l'expérience ou même finalement par des études ?
Alors, il y a un petit peu d'évaluation clinique qui est faite sur de l'accompagnement de chimiothérapie avec certaines plantes, par exemple le curcuma, pour essayer de, vraiment de regarder s'il y a une augmentation de l'efficacité de la chimio, ce qui peut arriver dans certains cas, ou une diminution des effets indésirables. Les études sont quand même relativement peu importantes dans ce cadre-là et il y a besoin d'une évaluation. Mais c'est très clair que des patients qui sont sous chimiothérapie ou qui subissent des radiothérapies font souvent état d'une amélioration de leurs effets indésirables. Mais souvent, les initiatives de prise en charge sont des initiatives plutôt par des cadres infirmiers, plus que par des médecins.
Et donc, vous ne pouvez pas faire ça tout seul, il faut le faire de façon encadrée avec justement des cadres infirmiers qui connaissent votre dossier médical, les traitements conventionnels que vous prenez. C'est faire très attention. On parlera des risques après.
Attention également à des thérapeutes qui n'ont pas fait d'études spécifiques, pas d'études médicales ou pharmaceutiques.
Professeur Champy, on va faire une courte pause et on continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1.
Sans rendez-vous revient dans un instant. Nous allons maintenant passer au risque de la phytothérapie, car oui, cela a beau être naturel, certaines plantes doivent être maniées avec prudence, surtout quand on prend déjà certains traitements conventionnels. Attention par exemple au ginkgo, au curcuma, très à la mode, ou même aux compléments alimentaires à base de pamplemousse. On vous détaille tout ça juste après, alors restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, c'est vous professeur Pierre Champy. Vous êtes responsable de l'enseignement de la phytothérapie à la faculté de pharmacie de Châtenay-Malabry. Alors à présent professeur, on va passer à l'autre versant de la phytothérapie. On a compris qu'il y avait des preuves sur certaines plantes et certaines indications. Mais qui dit médecine naturelle par les plantes dit quand même que ça ne s'improvise pas, il y a des risques aussi. Et ces risques, on commence à les surveiller d'un peu plus près en France et en Europe d'ailleurs. Est-ce qu'il y a beaucoup d'accidents ? Est-ce qu'on recense vraiment un nombre important ?
Il y a relativement peu d'accidents qui sont recensés, mais je pense que c'est beaucoup parce que les accidents ne remontent pas aux autorités sanitaires. Le plus gros de la phytothérapie actuellement, c'est des compléments alimentaires. Il y a un système de nutrivigilance qui est mis en place par les autorités de sécurité de l'alimentation, donc qui vise à recenser et évaluer les effets indésirables qui pourraient être associés avec des compléments alimentaires, notamment contenant des plantes. Cette même agence a un groupe de travail plantes qui s'intéresse aux étiquetages des produits qui sont très souvent insuffisants en termes de mise en garde, notamment pour les interactions médicamenteuses. Dans l'esprit des gens, naturalité, ça va avec sécurité. Il suffit juste de réfléchir deux secondes pour voir qu'il y a plein de contre-exemples. Et il y a beaucoup
de problèmes.
Par exemple,
il y a eu quoi comme accident très grave ? Je crois qu'en Italie, c'est passé quelque chose.
En Italie,
l'an
dernier, il y a eu toute une série d'hépatites fulminantes avec des produits contenant du curcuma ou de la curcumine, alors que le curcuma, c'est une épice qui est très largement consommée.
Très grave, Jimmy, l'hépatite fulminante. Enfin, on parle d'un truc très sérieux, là.
On en meurt, tout simplement. C'est mortel. Donc,
il y a eu des transplantations hépatiques nécessaires pour certains patients, d'ailleurs. Alors, est-ce que c'était lié au curcuma lui-même ? Est-ce que c'était lié à des problèmes de qualité ? Le mystère reste entier.
Jimmy.
Mais d'ailleurs, justement, la qualité, puisque lorsqu'on parle de phytothérapie et de plantes, est-ce que c'est comme les fruits et les légumes, tous ne se valent pas de la même façon ? Est-ce qu'il faut faire attention à certaines plantes, notamment, je ne sais pas, la valériane, est-ce qu'elles se valent toutes en fonction de leur provenance ?
Alors, généralement, on va désigner vraiment une plante très précise et une partie de plante précise dans un cadre de phytothérapie. Après, il y a différents circuits d'approvisionnement avec à la clé des produits qui ont des statuts différents. Et c'est le statut du produit qui va jouer. Si on prend le cas des compléments alimentaires, donc très large distribution de produits de type phytothérapie.
Les petites gélules qui contiennent des plantes.
Les exigences en termes de qualité sont beaucoup moins importantes que sur le médicament. Il y a un syndicat des compléments alimentaires en France qui s'appelle le SINADIAT qui propose à ses adhérents des lignes de conduite pour l'approvisionnement et le contrôle et la production.
C'est bien, ça veut dire que la société, ce milieu s'organise, c'est bien.
Mais malheureusement, quand la DGCRF fait des enquêtes sur la qualité réelle, elle n'est pas forcément au rendez-vous et ça, c'est très problématique. Pas la bonne plante, des contaminations, c'est relativement fréquent. Et c'est bien documenté à l'échelle mondiale, plus qu'en France. En fait.
Est-ce que déjà, si on dit à nos auditeurs, bon, vous êtes branchés par la phytothérapie, mais déjà, allez, n'achetez pas sur Internet, est-ce que c'est déjà un bon conseil, ça ?
Ne pas acheter sur Internet est un excellent conseil, dans la mesure où il y a beaucoup de produits dits naturels sur Internet qui, en fait, contiennent des molécules médicamenteuses, voire des molécules médicamenteuses qui ont été retirées du marché à cause d'accidents. On peut penser à des produits pour maigrir ou à des produits pour l'érection qui sont étiquetés 100% plantes, dans lesquels on va retrouver des amphétamines,
du chimique,
de la sibutramine par exemple.
Donc, il faut vraiment se méfier. Ouais. Jimmy ?
Si on passe à des exemples concrets, ce n'est pas forcément la phytothérapie qui va poser problème, c'est les interactions éventuellement avec d'autres médicaments qui vont entraîner des conséquences. Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, mais comment est-ce qu'on explique cela ?
Alors, les interactions vont être multiples. C'est essentiellement des interactions sur le devenir d'une molécule médicamenteuse dans l'organisme. Il y a parfois une méconnaissance de ces interactions d'un point de vue scientifique. Donc, on est assez souvent dans le flou par rapport à la réalité de ces interactions.
On va illustrer avec un exemple. Ouais. Les compléments à base de pamplemousse, par exemple, il faut faire attention quand on prend quel type de médicament par ailleurs.
Alors, pour le pamplemousse, c'est les produits qui sont issus vraiment de la pulpe du fruit ou le jus de fruit qui vont poser des problèmes d'interaction avec à peu près la moitié des médicaments qui sont sur le marché.
Ah oui, carrément. Je pensais que c'était des médicaments en particulier.
Des anticancéreux, des benzodiazépines, des antidépresseurs, des antiépileptiques. Donc, oui.
Donc, ça veut dire quoi pour les gens ? Interaction médicamenteuse, c'est-à-dire que le médicament, il va faire quoi ? Il va être plus fort, moins fort, il va s'éliminer plus lentement. On a un vrai risque, parce qu'on a l'impression interaction médicamenteuse, il va se passer un vague truc, on va avoir des nausées, on peut avoir de vraies conséquences.
On peut avoir une non-efficacité du médicament, ce qui va poser problème dans des situations où le médicament est absolument nécessaire à la survie du patient. Et on va avoir également parfois des surdosages médicamenteux pour lesquels on aura des effets indésirables qui seront beaucoup plus importants que ce qui est attendu, voire éventuellement qui auront des conséquences extrêmement délétères.
Autre exemple, vous m'avez parlé en préparant l'émission de la berbérine, je crois, et de du millepertuis. Et là, c'est contre-indiqué avec quel type de médicament classique ?
Alors, le millepertuis est contre-indiqué avec à peu près la moitié des médicaments
là
théoriquement.
Aussi.
Donc, on va avoir des contre-indications avec énormément d'anticancéreux. On retombe sur les mêmes choses que pour le pamplemousse que j'ai cité, enfin, qu'on a cité tout à l'heure. Pour la berbérine, alors on la retrouve dans des écorces d'épines vinettes, par exemple. Je ne sais pas si les auditeurs connaissent ce petit arbre, ce petit arbuste qui donne des fruits comestibles. La berbérine est proposée à l'état isolé à partir de plantes, mais c'est étiqueté comme étant un produit de phytothérapie pour la prise en charge du diabète dans des compléments alimentaires. Donc on est totalement dehors de la fonction du complément alimentaire. Et là, il y a plein d'interactions pour cette molécule.
Ginkgo, très à la mode, le ginkgo. On en voit partout dans la presse. On se dit, oh là là, le ginkgo, c'est super. Mais attention aussi avec le ginkgo, je crois.
Oui, le ginkgo, en l'occurrence, il y a une augmentation du temps de saignement. Et il y a un risque qui est accru chez des gens qui prennent des anticoagulants ou des antiagrégants plaquettaires.
Donc, déjà, nombre de gens, il y en a beaucoup qui sont sous ce type de traitement. Jimmy ?
Quelque chose qui paraît complètement anodin, les compléments à base d'ail. Là aussi, il faut faire attention.
Même problématique sur le temps de saignement.
Ah oui. Et le curcuma, alors on en parlait déjà un petit peu tout à l'heure, mais le curcuma par exemple, on a parlé beaucoup parle de ses vertus anti-cancer, donc on voudrait l'utiliser quand on a éventuellement un cancer, mais il peut y avoir des risques, hein, vraiment, vous en parliez tout à l'heure.
Alors manifestement, le curcuma et sa molécule colorée active, la curcumine, sont très peu dangereux a priori chez l'individu lambda, notamment parce que la curcumine pénètre très très mal dans l'organisme, elle est essentiellement rejetée dans les selles. Pour la curcumine et le curcuma, il y a manifestement des interactions médicamenteuses. Alors quand on les regarde du côté preuve scientifique chez l'animal, ça part un peu dans tous les sens. On commence à voir émerger des accidents documentés dans la littérature où des gens sous anticancéreux se retrouvent avec des surdosages en leur molécule anticancéreuse avec des conséquences qui sont très néfastes.
On voit bien que ça ne s'improvise pas la phytothérapie, Jimmy.
Ah, complètement, et moi je le dis d'ailleurs aux patients, je ne touche pas une bille en phytothérapie, en huiles essentielles, je n'ai pas appris, donc je n'en prescris pas, car
allez
je ne sais pas.
Allez voir des spécialistes.
Il faut savoir ce qu'on fait. Vous l'avez dit, il y a un système de surveillance, de nutri-vigilance, mais que l'information ne remonte pas suffisamment. Qu'est-ce qui se passe en fait ? Les gens, finalement, ils ont leur effet secondaire et puis ils vivent avec ou pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus de recul ?
Ils ne pensent pas à déclarer. Les pharmaciens devraient être les premiers déclarants.
Voilà, j'allais dire, si on a un problème avec une tisane quelconque, on va le dire à qui ?
Il faut en parler à son pharmacien. Il faut en parler également à son médecin généraliste. Mais le pharmacien est a priori la personne la plus à même de repérer des effets indésirables dans la pratique courante et de signaler. Et on s'attendait à ce que le pharmacien soit le plus grand signalant dans ce domaine.
Jimmy ?
Pendant la crise du Covid, je crois que vous avez participé à une alerte de l'ANSES, l'Agence du médicament, sur Covid, traitement anti-inflammatoire et phytothérapie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, nous faire un petit résumé ?
Alors, c'était un avis qui était donné par l'Agence de sécurité sanitaire des aliments, donc qui était relative au fait que du côté du médicament et du ministère de la Santé, on contre-indiquait les anti-inflammatoires
non stéroïdiens. Olivier Véran a dit on ne prend pas d'anti-inflammatoires en suspicion de Covid. Voilà. Et ça découle de ça, votre décision.
À cause d'une aggravation potentielle des cas déjà sévères, donc symptomatiques. Et l'Agence de sécurité des aliments s'est penchée sur la problématique des plantes qui ont des effets anti-inflammatoires. Et donc, elles sont déconseillées par principe chez des gens qui ont un Covid qui est déclaré. On ne sait pas si elles sont réellement dangereuses dans ce cadre-là.
Principe de précaution.
Par principe de précaution, l'avis de cette agence, c'était de ne pas en consommer quand il y avait une déclaration de symptômes.
La liste était très importante, mais dans les plus connus, quels étaient ceux qui étaient déconseillés au moment du Covid?
Alors, notamment le curcuma, qu'on a déjà évoqué, qui a des activités anti-inflammatoires qui sont assez bien démontrées, notamment dans un cadre clinique, donc chez l'humain. On retrouvait également certaines myrrhes, l'encens. On retrouvait des plantes contenant des dérivés assez proches de l'aspirine. On retrouvait des plantes qui ont des activités sur le système immunitaire, les échinacées par exemple.
Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup professeur Champy d'avoir accepté de répondre à nos questions, de nous avoir éclairé sur les bénéfices et les risques de la phytothérapie. On a compris que naturel ne veut pas dire sans danger. Merci encore pour ces précisions.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique, les mots du quotidien. Et aujourd'hui, nous nous intéresserons au dosage des transaminases, un marqueur d'une souffrance au niveau du foie. Alors, qui doit faire ce dosage? À partir de quel âge et dans quel but? Nous ferons le point. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence les mots du quotidien. Et aujourd'hui, focus sur le dosage des transaminases. Savez-vous à quoi sert ce dosage justement, cette ligne que vous avez peut-être déjà vue sur le compte-rendu de votre prise de sang, qui doit faire doser ces fameuses transaminases? Savez-vous quel type de maladie cela permet de détecter justement? Benjamin Lévesque a été vous interroger sur le sujet. On écoute son micro-trottoir.
C'est un festival de musique?
Les transaminases, c'est une piqûre, non?
Les transaminases, je pense que c'est par rapport au foie.
Et les transaminases, c'est quelque chose qu'on a dans le corps, c'est pas quelque chose qu'on injecte.
Mmh. C'est un truc, quelque chose qu'on cherche dans le sang, mais alors aucune idée de ce que c'est.
C'est un rapport avec les globules blancs, les globules rouges, un certain équilibre entre les deux, je ne sais pas.
Par exemple, une personne qui est alcoolique, ses transaminases vont augmenter, je pense.
Passer 55 ans, sans doute. Faire un dosage des transaminases.
Je pense que c'est pour détecter un diabète, mais franchement, je n'en sais rien.
Quand on fait un bilan sanguin, ils font automatiquement les transaminases.
Alors, il y a du bon, mais il y a aussi des choses, on est un petit peu loin. Donc, on va faire quand même une mise au point, bien sûr, Jimmy. Quand on fait doser donc par une prise de sang ces transaminases, on parle de quoi précisément? Alors, c'est un peu compliqué, mais vous allez nous expliquer.
Alors,
ça
en
simplement.
Alors, en gros, ce sont des enzymes, ouais. C'est des protéines qui sont situées à l'intérieur des cellules. Elles sont présentes dans tous les tissus de notre corps et elles se déclinent sous deux grandes catégories. Alors, attention, les noms sont vraiment barbares. On a les alanines, mais moi j'ai du mal, aminotransférases et puis alates pour les intimes. Et vous avez cela, on les trouve spécifiquement dans le foie. Elles sont présentes en plus grande concentration dans le foie.
D'accord.
Et vous avez les aspartates aminotransférases.
Bravo.
Ou ASAT.
J'étais persuadée que vous alliez vous planter, mais non.
Oui, mais non, j'ai répété toute la nuit pour ça. Et eux, ils se concentrent un peu plus partout. On en trouve dans le rein, dans le cerveau, dans les muscles et en particulier dans le muscle cardiaque. Et donc, ils sont moins spécifiques du foie.
Alors, une fois qu'on sait ça, à partir de quand on juge que le dosage de transaminases, il n'est pas dans des valeurs normales? Alors là aussi, vous allez donner des chiffres.
Non, je ne donnerai pas parce que c'est pas à vous de le savoir d'ailleurs.
Bon, très bien.
Autant
merci.
Vous pouvez savoir l'hémoglobine, 12 grammes, 13 grammes. Autant
vous
ASAT
pas me confier
et ALAT,
les choses comme ça.
En fait, ça dépend du laboratoire. En fait, c'est au médecin d'analyser.
Et
on parle en nombre de fois la normale. Une fois la normale, deux fois la normale. Bref, de toute façon, les patients, quand ils ont leurs résultats, dès que c'est en gras, ils viennent nous voir. Et donc, parfois, il n'y a rien de grave. Donc, ne retenez aucun chiffre, mais c'est le labo qui vous dira et ça varie en fonction des prescriptions.
Très bien. Alors, pour savoir précisément ce que ce dosage, par contre, des transaminases permet de détecter comme anomalie, comme éventuelle maladie, nous avons interrogé le professeur Patrick Marcelin, hépatologue et chercheur à l'hôpital Beaujon à Clichy. On l'écoute.
L'élévation des transaminases, ça veut dire qu'il y a une inflammation du foie avec une destruction des cellules hépatiques. C'est ce qu'on appelle une hépatite. Alors, beaucoup de choses peuvent donner une hépatite. Il peut s'agir, bien sûr, d'une hépatite alcoolique. Il peut s'agir d'une hépatite virale, B ou C. Il peut s'agir d'une hépatite médicamenteuse. Certains médicaments peuvent donner une élévation des transaminases, peuvent abîmer le foie. Et ça peut être, et c'est de plus en plus fréquent, ça peut être une hépatite liée à la surcharge en graisse qu'on appelle la NASH. Ce n'est pas un signe de cancer du foie, mais toutes les hépatites, quand elles durent trop longtemps, ce qu'on appelle les hépatites chroniques, lorsqu'elles durent des années, des dizaines d'années, toutes les hépatites exposent au risque de cirrhose et de cancer.
C'était donc le professeur Marcelin qui était venu dans cette émission justement nous parler de cette maladie du foie gras, au micro bien sûr de Benjamin Lévesque. Alors Jimmy, on comprend à quoi il sert ce dosage des transaminases, mais du coup, qui c'est qui doit le faire dans la population? Est-ce qu'il y a un âge à partir duquel on devrait absolument faire doser ces transaminases puis à quel rythme en fait ?
Je pense à partir du moment où vous prescrit un bilan, il est de bon ton de vérifier que tout va bien et puis ça va dépendre de votre mode de vie et de vos habitudes. Si jamais vous êtes un grand consommateur d'alcool, que vous êtes un peu en surpoids, et bien peut-être qu'il faut le faire plus souvent, au moins une fois à partir de 30-35 ans. Et puis ça dépend du résultat. Si tout est normal et que votre mode de vie est normal, et bien on peut espacer tous les 2-3 ans. Mais il ne faut pas attendre d'être malade pour se soigner. On est
puis
très mauvais.
Une fois, c'est souvent silencieux. Exactement. Une fois qu'on a mal, qu'on a des symptômes, c'est que c'est déjà grave.
Hein. Exactement. Ça apparaît à bas bruit. Et donc vous pouvez avoir une cytolyse hépatique sans aucune douleur. Elle va évoluer sur plusieurs années. Donc,
une cytolyse hépatique, c'est des lésions
qui vont se révéler par la prise de sang. On va voir les alates et les azates qui vont être élevées. Bref, faites le bilan. Et puis s'il est normal, on voit dans 2-3 ans. Et puis encore une fois, s'il y a le moindre doute, au pire, vous avez fait un bilan pour rien. On est très mauvais en médecine préventive. On est tout le temps dans le curatif. Autant anticiper avant d'être malade.
Merci beaucoup, Jimmy, pour toutes ces précisions.
15h, 16h. Sans rendez-vous sur Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout, car juste après, c'est la chronique sexo de Catherine Blanc.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et c'est Catherine Blanc qui nous rejoint tout de suite en studio. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Alors aujourd'hui, on va tenter de répondre à cette question de Geoffrey. Geoffrey qui a 32 ans. Avec ma copine, j'ai l'impression que nous faisons beaucoup plus l'amour en ce moment. Est-ce que c'est lié à l'été et à la chaleur ? Alors Catherine, pourquoi on a tous, cette sensation, la sensation que les gens, l'été, ils font plus l'amour. Est-ce que c'est qu'une idée ou est-ce que c'est la réalité ?
Alors d'abord, nous ne sommes pas, contrairement à nombre d'espèces, nous ne sommes pas liés aux saisons pour faire l'amour. Des tas d'espèces, évidemment, ont des saisons de chaleur.
Ah oui, bien sûr.
Et puis, et d'autres moments où, effectivement, il n'est plus question, puisqu'ils font la sexualité à but de reproduction, donc se fait au moment des chaleurs des femelles. Ce n'est pas le cas de l'être humain. Nous pouvons faire l'amour tout le temps et avec beaucoup d'assiduité. Et effectivement, l'été, si c'est plus propice, ce n'est pas pour des questions physiologiques, mais simplement...
Peut-être
parce qu'on est en vacances, pour mais on est aussi l'hiver. Mais c'est surtout que nous sommes plus déshabillés parce qu'il fait chaud. Donc, nous sommes plus en contact avec notre propre corps. Donc, plus en écho, en écoute de notre corps, puisqu'il n'y a pas 10 000 couches entre...
De pulls, de sous-pulls, de vestes, manteaux. Ouais.
Donc, c'est à la fois plus facile d'avoir un contact avec sa peau, l'air, le soleil qui câline la peau, qu'il adore, qui lui fait avoir une odeur particulière. Donc, on est vraiment plus au fait de son corps. Quand l'hiver, on peut être plus dans le déni de ce corps, que d'ailleurs on laisse souvent s'enrober joyeusement.
Jimmy, enrobé, ça vous parle ?
Non mais là j'enfonce une porte ouverte, mais on peut le comprendre, des hommes qui soient un peu émoustillés par des décolletés, des mini-jupes, mais pour une femme c'est exactement la même chose. Si elle voit les bras d'un homme ou les mollets d'un homme, elle peut aussi être excitée de la même façon. On a l'impression que c'est que dans un seul sens, comme si l'homme tout d'un coup avait plus envie et que la femme disposait, alors qu'elle serait peut-être disponible.
Les shorts et les tongs, c'est pas hyper sexy.
Ouais, ou les claquettes chaussettes, c'est pas non plus ce qui est le plus sexy. Est-ce que vraiment les hommes sont plus aussi attirants lorsqu'ils sont moins habillés l'été ? Parce que je sais pas, en hiver, un homme en costard par exemple,
c'est
ça a son charme aussi, non ?
C'est très charmant, bien sûr. En fait, je crois que la première chose qui est très excitante pour les femmes, c'est l'idée d'être excitante pour les hommes. Donc, ça passe par le biais. Et du coup, elles aussi, parce qu'il fait chaud, elles ont une autre façon d'appréhender l'air sous leur robe, etc. Donc, elles sont dans une disponibilité et elles sentent l'écho chez les hommes. Et évidemment que sentir ce pouvoir-là qui est le leur... va participer de leur regard sur l'homme, sur elle-même et sur l'homme, et donc sur la sexualité. Mais un homme, évidemment, est très élégant, costard, cravate, etc. Et puis, ça donne très envie de l'enlever, tout ça, parce que c'est ça aussi l'intérêt des habits, c'est de pouvoir les enlever, justement, et d'avoir envie d'enlever et d'effeuiller, comme on effeuille un oignon. Hein. Ça, c'est pour Top Chef. Et donc...
elle commence à connaître vos goûts télévisuels. Hein.
Mais, parce que c'est vrai que c'est le costard, très bien, parce que là, le Bermuda...
claquette chaussette, comme vous disiez.
Bermuda,
ça,
Marcel, franchement, à moins d'avoir des muscles tels que je ne les ai pas, je ne vois pas trop l'intérêt. Mais voilà, c'est cette disponibilité de la femme.
Oui, et puis même nous dégageons pas les mêmes choses, même le même comportement.
Mais juste le soleil, ça nous rend moins stressés un peu quand même. Non, il y a quelque chose de physiologique. On est exposé au soleil, on est de meilleure humeur. On sait que ça agit, le blues hivernal, ça
bien
existe.
Sûr,
plus de luminosité, ça nous rend plus détendus aussi.
On est plus heureux et puis on est plus lascif aussi. parce qu'on marche moins vite, parce que justement il fait plus chaud. On prend le temps de se regarder plutôt que de se fuir et de courber la tête pour se protéger du vent ou de la pluie. Donc il y a des contacts qui se font et qui font qu'on voit un peu plus ses corps, ses peaux. Ce n'est pas parce qu'il va y avoir un mollet bien rebondi ou un muscle bien rebondi, parce que principalement, ce n'est pas nécessairement ce qui est délicieux pour les femmes, c'est d'imaginer ce qu'elles ne voient pas. Donc ce n'est pas parce que ça va se voir que ça va être sexy. Et en effet, ce n'est pas parce que ça sera en short que ce sera plus sexy. À condition, bien sûr, sauf si on le porte très bien. On a le droit de le porter très bien.
Je le porte très mal.
Dernière question, Jimmy.
Pour les célibataires, et c'est aussi le moment des rencontres, on sort un peu plus, donc forcément, c'est plus propice à la vie sociale.
Oui, on sort plus, et puis on a plus de temps, les journées sont plus longues, donc on s'invite à boire un café, puisque maintenant les terrasses et les restaurants rouvrent, enfin. Donc c'est vraiment un moment où on peut écrire une histoire qui mène à quelque chose ou pas, mais en tout cas il y a du temps, il y a de la douceur. Quand l'hiver, c'est plutôt on est dans la confrontation avec la dureté de la vie, du froid, du rythme, voilà. Donc effectivement c'est un moment beaucoup plus propice, mais pour autant nous sommes opérationnels toute l'année.
Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain dans son rendez-vous. Votre émission Santé Bien-être, c'est tous les jours de 15h à 16h. Tout de suite, c'est Mathieu Noël et son équipée sauvage. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie. Est-ce que vous avez un odorat développé?
J'avais peur que vous me demandiez encore si j'étais divorcée, mais non, j'ai un odorat très bien développé.
Vous pourriez être divorcée et avoir un odorat développé, c'est possible. Oui. Notre invitée, une des plus grandes actrices françaises, tout simplement, Emmanuelle Devos, est à l'affiche d'un film magnifique qui s'appelle Les Parfums, où elle incarne un nez. Vous savez évidemment ce que c'est qu'un nez, c'est une personne qui crée des parfums. Eh bien, nous allons beaucoup parler parfums, odeurs, musc. Cet après-midi dans l'équipe
bon
sauvage.
Cet après-midi dans l'équipe sauvage. Donc rien que pour ça, je vais évidemment rester vous écouter avec attention et vous aussi surtout, restez sur Europe 1.